Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence à la librairie aujourd'hui pour la première de ce nouveau cycle Pépites de l'année 2025-2026. C'est la troisième année que nous faisons ces rencontres ici, toujours en partenariat avec les étudiants de la Web Radio Transistor, toujours très impliqués avec nous. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver en podcast sur le site de la radio les épisodes précédents de l'année dernière et de l'année précédente. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Louis, maître de conférences en littérature générale et comparée à l'ENS de Lyon. Vos recherches portent sur la littérature latino-américaine du XXe siècle, la littérature de genre et la théorie du roman. Vous êtes membre de la Société française de littérature générale et comparée. Vous avez publié La carte et la fable, Stevenson, modèle d'une nouvelle fiction latino-américaine, au catalogue de NS Éditions en 2018. Nous aurons le plaisir de vous écouter en dialogue avec Badi Sali, étudiant en lettres modernes à l'ENS, et Nicolas Morales, doctorant en littérature étrangère à l'Université de Valenciennes, ancien élève de l'ENS. Ce temps de présentation durera environ 30 minutes. Il y aura un temps d'échange avec des questions et nous pourrons continuer autour d'un café gourmand si vous le souhaitez. Nous vous avons attribué un ticket à l'issue de l'échange. Un tirage au sort sera fait pour que l'un ou l'une d'entre vous choisisse un ouvrage de son choix. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre temps pour la pépite suivante qui se tiendra le mardi 25 novembre prochain avec Delphine Antoine Mahut, à qui nous poserons la question « Qu'est-ce qu'être cartésien ?» Merci à tous. Et je vous laisse la parole.
Alors, merci beaucoup. Alors, pour moi, c'est un plaisir, sur le plan académique et personnel, de présenter cette rencontre, puisque j'ai eu le plaisir, pendant mes années de scolarité à l'ENS de Lyon, de participer à quelques-uns de vos séminaires de recherche. Vous êtes un professeur passionné et passionnant, et si je peux me le permettre, un fervent défenseur des personnages de fiction. Dans vos cours, vous interrogez des notions comme la République mondiale des personnages, la littérature universelle ou encore les littératures de l'imaginaire, toujours pensant à cette canonisation dans le milieu littéraire. Vous le faites avec une approche pluridisciplinaire qui ouvre des dialogues féconds et nécessaires aujourd'hui, notamment entre l'anthropologie et la littérature, ou en tout cas c'est ce que j'ai retenu le plus. Et comme il est indiqué dans l'avant-propos de votre ouvrage « La carte et la fable » est un remaniement de votre thèse de doctorat. Nous voudrions donc commencer l'entretien en vous demandant comment vous regardez aujourd'hui ces travaux dans l'ensemble de votre carrière de chercheur et d'enseignant, puisque il y a presque 9 ans, vous avez soutenu votre thèse et il y a 7 ans, vous avez publié ce livre. Donc, quelle place occupe-t-il aujourd'hui dans votre carrière ?
Oui, bah alors déjà bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, c'est très gentil de venir m'écouter parler et merci beaucoup à Badis et Nicolas de prendre ce temps pour parler de ce livre qui effectivement est un peu vieux. Me dire que ça fait 9 ans que j'ai soutenu ma thèse, ça rajeunit pas. Un peu plus près ? Ouais, ok. Alors, quel regard j'ai là-dessus ? Pour moi c'est une expérience assez étrange d'être là pour parler d'un livre que j'ai fini d'écrire et en fait qui est surtout un remaniement de la thèse d'il y a 7 ans. La thèse était deux fois plus grosse, donc il fallait couper. C'est pas un souvenir très agréable, pour tout vous dire, d'avoir fait le livre, parce que c'est plus on coupe, on essaye de faire rentrer pour que ça soit aussi plus lisible que les 600 pages originales. Donc en venant, je me suis dit, bien tiens, je vais le relire, et puis en fait, se relire soi-même, c'est pas du tout agréable. Même si des fois je me disais, ah tiens, ça c'est pas mal cette page, bon voilà. Et puis au bout de 30 pages, j'ai arrêté en me disant, non, ça sert à rien, on va plutôt tenter de faire ça avec une distance. Et j'essaye justement de partir du simple principe que c'est mon premier exercice de recherche. Enfin, je ne savais pas faire, c'est le principe de faire une thèse, on ne sait pas faire de la recherche. Donc de ne pas être trop sévère envers moi-même et de me dire bon bah voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais à l'époque avec tout ce que j'avais pas lu. Il y a encore plein de choses que j'ai pas lu, mais j'ai lu plus de choses, donc oui, évidemment, si j'avais à refaire aujourd'hui, je ferais différemment. Il y a plein de trucs dont je me dis ouais, là c'est pas complètement peut-être convaincant, ou il faudrait ajouter ça, mais si on réfléchit comme ça, c'est absolument déprimant, la recherche, parce que on est toujours en train d'essayer de s'améliorer, d'en savoir plus. Donc disons que je le vois comme un exercice. Par contre, ce qui me frappe évidemment, mais j'imagine qu'on est tous pareils, c'est que le fond de l'affaire, quoi, du livre, ce qui m'intéressait, c'est toujours ce qui m'intéresse. Et pour le coup, même si je vous ai dit qu'en le relisant, bon, je voulais pas le relire, j'ai pas de dégoût du sujet. comme je crois que ça fait à certains, qui se disent non, c'est pas possible, j'ai passé 6 ans là-dessus, bon, moi j'ai passé 4 ans, donc je veux plus jamais en entendre parler. Et non, ça va, je veux bien en entendre parler, ça m'intéresse toujours, c'est toujours, voilà, c'est, disons qu'il y a dans le fond du livre, malgré tous ses défauts, il y a les sujets qui m'intéressent toujours et sur lesquels je pense je continue à travailler. Alors je sais pas si je réponds vraiment, parce que je réponds pas sur le fond, mais voilà, c'est mon rapport pour l'instant à ce livre-là, disons.
Peut-être pour commencer, commençons par le titre du livre. En utilisant ces deux termes, la carte et la fable que vous identifiez dès l'avant-propos comme ce qui va constituer la grille herméneutique de ce qui va permettre d'élucider les stratégies d'écriture des quatre écrivains, vous tentez un rapprochement qui peut-être peut paraître étonnant vis-à-vis du lecteur, ou du moins ni neutre ni particulièrement évident. En effet, on pourrait ici entendre que la carte soit fabulatrice ou que la fable elle-même serve d'instrument heuristique. Donc, première question, que peut révéler ce rapprochement dans votre travail de recherche, notamment en ce qui concerne ce que vous citez à plusieurs reprises comme la fable, la fiction et la cartographie mondiale de la littérature ?
Bon, alors il y a beaucoup de choses dans la question. Pour l'anecdote, c'est pas moi qui ai trouvé le titre. J'avais un titre qui était très mauvais. Et j'étais à un mois de rendre la thèse et je ne trouvais pas de titre. Et je dis à ma compagne, t'as pas une idée de titre? Et c'est elle qui a trouvé. Donc, voilà.
Au hasard.
Merci Chloé. Mais j'aime beaucoup le titre. Il est très. Enfin, je le trouve joli. Bon, je sais pas si. Oui, en y réfléchissant, je ne sais pas si c'est le cœur du sujet, mais en fait, l'idée de la carte est assez obsédante, en effet, quand je réfléchis aux choses, au sens de... c'est un peu ce dont je parle dans l'avant-propos, qui, pour le coup, est quelque chose que j'ai complètement rajouté, qui n'était pas dans la thèse au départ. C'est l'idée que quand on parle de littérature, et a priori en littérature, a fortiori en littérature comparée, on dresse des cartes, qui sont des cartes qui ne sont pas juste de repérage géographique. C'est des cartes qui repèrent des valeurs, qui repèrent des hiérarchies et qui organisent l'espace littéraire en fonction de centres, de périphéries, d'influences, en pensant souvent que tout part du centre et tout le reste est influence et doit se comparer et doit se comprendre en regard de ce qui fait dans le centre. Et le but de... enfin, autant que possible, hein, le but du livre était de proposer une réflexion sur comment on construit ces cartes et comment on cartographie la littérature mondiale à partir de quelques exemples, hein, seulement, c'est vraiment un corpus très limité, et de montrer en regard comment les écrivains comprennent eux-mêmes leur position par rapport à ces cartes, comment ils se situent, comment ils comprennent comment ils sont situés sur la carte de l'espace littéraire mondial et comment ils définissent des stratégies pour bouger les cartes, pour les faire bouger. Et ça passe par ce que j'ai appelé de manière un peu générale la fable, c'est-à-dire une forme littéraire qui se comprend à plusieurs niveaux de lecture. Bon, avec on parle de dialectique surface-profondeur, bon, si j'avais à refaire, je le referais pas, parce que c'est peut-être un petit peu mécanique comme pensée, j'en sais rien. Mais dans le fond, je crois que c'est ça. C'est l'idée que ces cartes sont des cartes relatives. Voilà. Et s'il y a bien une leçon chez Borges, c'est ça. C'est que la carte, c'est toujours un truc relatif et que ça dépend d'un point de vue. Et Borges s'amuse en permanence à changer le point de vue sur les cartes et à modifier la façon dont les cartes peuvent être perçues en disant « Ah oui, vous pensez que la littérature fantastique, c'est un truc qui commence au 19e en France. Moi, je vais vous dire absolument le contraire. Je vais vous dire que ça commence en Chine médiévale parce que c'est moi qui décide. Vous n'êtes pas d'accord, ben tant pis. Après tout, votre choix est tout aussi arbitraire et subjectif que le mien. » Ensuite, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais ça a vraiment été une leçon pour moi quand j'ai lu et relu Borges, et que j'ai cru voir aussi chez les autres.
Oui, justement, par rapport à cette question de la carte littéraire, on voulait vous poser une question par rapport à ce que vous appelez des stratégies. De vos auteurs, parce que on va dire la production littéraire de ces quatre auteurs dans ce qu'elle a des novateurs est indémêlable des lectures qui la nourrissent, donc des lectures de la tradition, Homère, Shakespeare, Dante, etc. Et Pour replacer cette question dans un dialogue plus théorique dans la littérature comparée, Pierre Brunel, par exemple, faisait de l'étude des influences un des piliers de la littérature comparée. Et vous semblez emprunter une autre voie, justement, qui refuse de parler d'études d'influence.
Oui, alors, ça, c'est une question vraiment très intéressante parce que j'ai l'impression, mais bon, peut-être que je ne l'ai pas trouvé, mais qu'il n'y a pas de texte théorique définitif sur la question de l'influence. Et ça a été un gros problème pour moi pendant toute la rédaction de la thèse. Comment faire pour ne pas en faire une étude d'influence? Parce que si c'est juste pour dire les écrivains latinos, ils ont lu Stevenson, bon, voilà, ça, en 10 pages, c'est fait et on passe à autre chose. Une fois qu'on a dit ça, oui, ils l'ont lu, ok, mais ils en ont lu d'autres. Et je voulais absolument pas faire ça, parce que dans l'étude d'influence, et donc là, bon, effectivement, je suis assez en désaccord avec Pierre Brunel là-dessus, dans l'étude d'influence, il y a quelque chose de fondamentalement inégalitaire, qui est que il y a un texte source, et il y a une imitation, ou une manière de se détacher, en tout cas, c'est pas une relation d'égal à égal. Donc, je voulais ne pas faire une étude d'influence. Même si quand on me demande ça portait sur quoi ta thèse, bon bah je dis c'est sur l'influence de Stevenson sur les écrivains latino-américains, parce que je vais pas me lancer dans toute une discussion théorique. Mais
la présentation qu'on peut trouver sur thèse.fr.
Ah bah oui.
Une étude d'influence.
C'est vrai?
Oui.
Ah bah je sais pas qui a rédigé ça, c'est peut-être moi au début de la thèse. Bon, vous faites bien de lire, je vais pas le corriger, je suis pas sûr que je pourrais d'ailleurs. Mais vraiment, le but, c'était de pas en faire une. Et en plus, ça aurait été complètement contradictoire avec l'esprit même des écrivains, puisque Borges, pour le coup, a beaucoup pensé la question de l'influence en inversant le temps littéraire, en disant il y a des influences d'auteurs qui arrivent après. Il y a ce célèbre texte de Borges qui s'appelle Kafka et ses précurseurs, où il dit que Kafka a une influence sur tous les écrivains qui ont existé avant lui. Parce qu'on lit ces textes à partir de Kafka. Parce qu'on connaît Kafka maintenant. Et donc on dit, tel texte, il parle de Léon Blois, par exemple, c'est un texte kafkaïen. Parce que maintenant, on connaît tellement Kafka qu'on ne peut pas le lire sans. Et ça, et là, à l'époque, pour le coup, je n'avais pas assez les outils, mais depuis, j'ai beaucoup plus lu Pierre Bayard ou d'autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne toujours et qui était en germe là-dedans. C'est l'idée que l'histoire littéraire n'est pas téléologique. Et qu'on lit par rapport à des canons qui se créent aussi après les écrivains, qu'on lit par rapport à des paradigmes de lecture qui apparaissent parfois 100 ans après un écrivain qu'on lit et qui n'était pas du tout lu comme ça à l'époque, et que tous ces effets d'anachronisme et de lecture déplacée, distante, créent le canon. Et c'est normal, hein, c'est légitime, c'est comme ça que fonctionne l'histoire de la littérature. Mais si on essaye de déplacer les choses et de ne pas voir les choses... l'histoire de manière juste progressive, en disant tel truc a eu une influence sur telle chose qui ensuite a eu une influence sur telle chose, déjà on remet de l'historicité, il me semble, dans les choses, en remettant des contextes précis, et ensuite, notamment en comparer quand on a des auteurs centraux, entre guillemets, et des auteurs de culture considérés comme plus périphériques, on évite la hiérarchie sous-jacente, qui est celle de un auteur latino qui a été influencé par un auteur britannique. Ce qui est toujours un peu gênant, parce que ça ne nous dit pas grand-chose, finalement. Parce que ça serait fait dans l'autre sens aussi, s'il y avait eu plus d'auteurs latinos traduits en Écosse en 1880. Quoi. C'est juste un effet ça, historique du champ. Ce n'est pas un effet de valeur. Voilà.
Pour rebondir peut-être sur cette question de la hiérarchisation de l'espace littéraire mondial qui serait véhiculé par les études littéraires, et peut-être aussi pour revenir sur Kafka, peut-être que, en tout cas moi j'ai été tenté de faire cette lecture à un moment donné, d'autant plus que vous discutez explicitement cette référence, notamment la lecture de Gilles Deleuze et Félix Guattari touchant Kafka et visant à établir quelque chose qui s'appellerait une littérature mineure par opposition à une grande littérature. Telle qu'ils la définissent, puisque vous-même, vous utilisez un corpus qui a été plutôt délaissé par la postérité, notamment en ce qui concerne Stevenson, ou tout du moins vous situez vraiment une inégalité de traitement entre ces différents auteurs. Par exemple, Borges va connaître une certaine fortune critique en France, là où Stevenson va être beaucoup plus délaissé, alors même qu'il fut un auteur extrêmement populaire en son temps. Dès lors, comment comprendre la situation de ces auteurs face à ce qui a pu se constituer comme un canon littéraire, et comment peut-être redonner l'importance à ceux qui ont été à la marge de cette reconnaissance institutionnelle?
Alors, j'ai pas la réponse à ça, parce que ça serait... comment le faire ? Je ne sais pas exactement, mais... en fait, ça, c'est quelque chose qui vraiment m'intéressait beaucoup quand j'ai fait ce travail-là, c'est d'essayer de comprendre le comment, justement. De comment ça se fait qu'il y ait de telles différences de traitement, de telles différences de postérité dans les auteurs. Et donc là aussi, ça permet de remettre de l'historicité dans les réceptions, en disant ben, pourquoi il y a eu une éclipse Stevenson et pourquoi il n'y a pas eu d'éclipse Borges. Et pour cela, il me paraissait nécessaire de remonter aux stratégies même des écrivains et à ce qu'ils avaient mis en place eux-mêmes pour être compris. Et Borges, par exemple, a été très malin dans sa stratégie. C'est-à-dire que quand il a commencé à être lu en France dans les années, disons, 50-60, il a été lu d'une manière qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il pensait. Et il a laissé faire. Donc il y a des entretiens hallucinants de Borges avec un certain Georges Charbonnier qui lui parle que de trucs structuralistes, qui dit on voit bien, alors il l'appelle Borges déjà, parce que, bon, on voit bien Borges que dans vos textes vous voyez que le texte est fait pour parler du texte et tout ça, bon enfin les vieilles lunes un peu des années 60-70, et Borges dit ah oui tout à fait, vous avez absolument raison, vous avez vraiment bien compris et tout, alors que c'est pas du tout ce qu'il dit et c'est pas du tout ce qu'il pense, mais il a compris que un des endroits de légitimation, eh ben c'est dans ces années-là, en tout cas, l'université française. Et qu'être cité par Foucault au début des mots des choses, ça va faire beaucoup pour son propre prestige, sa propre lisibilité aussi, quitte à ce que ça soit complètement en dehors de ce qu'il écrit. Alors on peut le taxer d'hypocrite, hein, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est que ça a marché et que Borges est devenu cette espèce d'emblème de la littérature qui ne parle que d'elle-même. Alors qu'il me semble que c'est complètement faux, c'est pas du tout ce que fait Borges, c'est pas la littérature qui ne parle que d'elle-même, c'est au contraire, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus fin que ça aussi, il me semble, ce qu'il écrit. Alors que chez Stevenson, c'est beaucoup plus erratique comme stratégie. Lui, il voulait n'être enfermé nulle part, donc il n'arrêtait pas de changer de modèle, de changer de style, de changer de genre. Son obsession, c'était comment on fait pour être un auteur populaire sans... pour autant se prostituer, hein, ces mots, c'est pas les miens. Il a jamais été dans une sorte de position de force où il pouvait imposer la lecture de ses propres œuvres. Or ça, il me semble que c'est assez crucial dans la manière dont finalement les auteurs sont reçus. C'est cette façon de se situer dans un champ, quitte à ce que ça fasse un peu oublier ce qu'ils écrivent eux-mêmes. Par exemple, Cortazar, qui est donc aussi dans le corpus, s'est toujours présenté comme un auteur absolument légitime, qui a des références, qui sont les références savantes, légitimes, et tout ça, qui a toujours montré un certain mépris pour la littérature populaire et la littérature de genre, alors que de fait, il en écrit. Et ça oriente complètement la réception, ça. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis rendu compte en relisant un peu, en feuilletant, que je suis complètement tombé dans cet écueil. C'est-à-dire que notamment la troisième partie, quand je l'ai écrite, je me suis dit « Ah ouais, c'est vraiment bien ce que j'ai écrit. » Et en fait, en la relisant, je la trouve presque illisible, parce que je sens que je tombe dans ce biais qui est de dire « Oui, bah voyez, c'est quand même sérieux, parce qu'il y a des références à Dante, il y a des références à Homère, il y a des références... » En fait... Je me dis avec le recul, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Oui, évidemment, il y a des références à Dante, à Homère, certes, mais quel est l'intérêt de dire ça, finalement ? Ou alors il aurait fallu que je les analyse différemment, non pas juste au niveau textuel, en disant, bon voilà, là on peut voir dans Bestiaire de Cortazar une relecture de l'Odyssée, mais en le relisant en disant, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il écrit ses premières nouvelles et il y en a une qui s'appelle Circé ? Bah, à l'évidence, c'est aussi pour qu'on le prenne au sérieux, pour qu'on dise « Ah, voilà un auteur argentin qu'on ne connaît pas, qui a déjà 35 ans, qui vient de s'exiler en France, mais il a une culture classique. » Et donc, évidemment, c'est une manière de s'affirmer et de dire « Voyez, je fais des nouvelles fantastiques, c'est pas un genre qui est très connu en France et qui est très légitime, mais je fais quand même des nouvelles fantastiques avec une culture classique. » Et finalement, je pense que ça aurait été plus intéressant de le voir comme ça que de faire une analyse très textualiste en disant « Ouais, il y a une forme d'épique là-dedans. Oui, c'est vrai sans doute, mais c'est peut-être pas si intéressant en un sens. »
Donc, peut-être même que, dans une certaine mesure, les analyses qui mettraient en avant l'apport de ce corpus, notamment de la littérature antique, participeraient peut-être, je pose certaines clauses, à la construction d'un contresens général sur la lecture de ces œuvres, ou vous pensez que c'est un facteur de légitimation qui s'entend
Non, je dirais pas que c'est un contresens, parce que je veux pas laisser penser que je considère que c'est faux. Enfin, c'est plutôt que c'est un mode de lecture. C'est un mode de lecture qui cherche à repérer ce qu'on appelle et ce qu'on appelait l'intertextualité. Et finalement, je crois que c'est un mode de lecture qui ne m'intéresse plus. Vous voyez, repérer dans des textes l'intertextualité en me disant là il y a une référence à Homère, là il y a une référence à Dante, là il y a une référence à je ne sais qui, eh ben, je crois que ça ne m'intéresse plus. Et c'est pas pour autant que je ne trouve pas ça légitime, hein, aucun problème si d'autres veulent le faire, mais fondamentalement oui, ça ne m'intéresse plus.
Ouais. Peut-être une question un peu ouverte, que s'agirait-il de chercher dès lors certes, c'est un peu réducteur de voir la littérature comparée comme une étude seulement d'influence, mais comment justement rompre ces frontières qui ont peut-être été un peu trop arbitrairement dessinées
C'est une vaste question, mais il y a plusieurs possibilités. Il y a celle de penser la littérature plutôt comme un fait historique, et donc fait historique, fait social, et donc de l'avoir un peu plus en surplomb, mais le risque c'est de parler moins des textes, ou alors, mais là je pense que tout le monde ne serait pas d'accord, c'est aussi de dire de quoi parlent les textes au-delà de la référence interne à la littérature. C'est-à-dire qu'un texte, quand on lit, c'est pas juste pour avoir des références à tel ou tel auteur, ou voir des réécritures, me semble-t-il. C'est que les textes, ils parlent de quelque chose aussi. Et alors là, c'est plus difficile à faire quand on est universitaire. Même s'il y en a qui le font hein, récemment et qui le font très bien, mais je pense pas en être capable. Mais oui, moi, quand je lis Stevenson, par exemple, il y a des textes de Stevenson qui m'émeuvent, qui me bouleversent. Donc là, c'est une question de relation plus éthique au texte littéraire. Et alors là, c'est beaucoup plus dur à commenter. Parce qu'on n'est plus dans le commentaire. Le principe du commentaire, c'est d'être dans une posture critique. Et on est formé pour ça. En prépa, mais même dès le collège un peu, mais surtout dès le lycée, on est formé à être dans une posture critique. Et dès qu'il s'agit de sortir de la posture critique, c'est très compliqué. Parce que si c'est juste pour dire « Ah oui, là ça me touche », ça n'a aucun intérêt. Honnêtement, théoriquement. Donc il faut essayer de trouver autre chose, et ça j'avoue que je sais pas, mais il y en a qui l'ont fait bien mieux que moi, hein, qui en parlent, qui tentent de parler de ces choses-là, Martha Nussbaum ou autre. Mais je pense que voilà, c'est des pistes autres pour sortir, mais alors vraiment c'est que mon opinion, hein, pour sortir de ce rapport uniquement textuel au texte, qui est, on prend un texte, on en fait un commentaire, on décèle les influences, on décèle l'intertextualité, on le décortique avec toujours cette posture critique. Et il y a deux livres que j'ai beaucoup aimés récemment de Rita Felski, qui est une théoricienne de la littérature, qui explique justement ça, la manière dont elle aussi, alors elle c'est à partir des gender studies, hein, elle s'est détachée de ce mode de lecture. Et je ne connaissais pas ces textes avant de faire ma thèse. Mais c'est quelque chose qui me parle assez. Une sorte de saturation, si vous voulez, de la posture critique et de la formation qui est la nôtre à tous ceux qui faisons des études de lettres modernes, qui ont fait des commentaires de textes en permanence, quoi.
Oui, justement, par rapport à cette posture critique, je voulais vous demander, parce que j'imagine, après je ne sais pas quelle est la genèse de votre projet, mais on peut imaginer que si vous avez consacré votre thèse à ces auteurs, c'est parce que vous prenez du plaisir à les lire. Et il y a toujours un côté émotionnel qui n'a pas de place justement dans l'univers critique, justement. Et pourquoi?
Mais parce que c'est très difficile à théoriser, le plaisir. C'est pas une approche qui... On vous donne pas un contrat doctoral parce que vous dites j'ai envie de faire ça. Et c'est normal. Vous êtes passé par là aussi. Dans votre projet de thèse, il n'y avait pas marqué « j'ai envie de faire ça, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît ». Et en un sens, heureusement. Mais évidemment que j'ai choisi le sujet parce que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de parler de ces auteurs, j'avais envie de les lire. Et vous voyez, au bout de 4 ans, plus les 1 an à travailler sur le manuscrit, à aucun moment, je m'en suis dégoûté. J'ai adoré faire ma thèse. Vraiment, j'ai adoré faire ma thèse. J'ai adoré. J'ai pas adoré faire le livre parce que voilà, il fallait couper, c'était pas le plus agréable. Et on revient à froid sur quelque chose qu'on a fait. Bon, c'est pas ce qui est le plus agréable. Et j'adore toujours ces auteurs. Et surtout Stevenson, pour moi, restera toujours, je pense, l'auteur avec lequel je me sens le plus en résonance. Mais ça, je vais pas le mettre dans ma thèse. Enfin, c'est pas ça qu'on attend. Ça reste un exercice académique aussi. Oui, si j'écrivais un essai, ça serait différent. Mais si j'écris un essai, j'ai pas un poste de maître de conférence après. Donc une thèse, c'est un truc académique. Il y a des codes, il y a une certaine distance critique, et on peut estimer peut-être que l'étude de la littérature est devenue trop académique et ne laisse plus trop la place à ça. Mais en même temps, c'est vrai que il faut avoir une certaine exigence théorique dans les exercices académiques. Mais la première question que vous me posiez, c'était est-ce que vous changeriez quelque chose? Alors j'ai en partie répondu, mais je rajoute quelque chose. J'ai conscience qu'une des limites du travail, c'est qu'il est mu justement par ma volonté de légitimer Stevenson. Et je sais que ça doit transpirer aussi à tout moment, et que peut-être parfois je surévalue l'importance qu'il a eue. Je crois qu'il a eu une importance, peut-être que par moment je la surévalue parce que j'ai envie de le légitimer. Après tout, j'assume. c'est un tic d'universitaire qui travaille sur des sujets qui ne sont pas très connus, ou même quand il crée un nouvel ouvrage, c'est dans l'introduction de dire voilà, là, je travaille sur un sujet, personne n'a travaillé dessus, pourtant, ça a une importance capitale. Bon, c'est un effet rhétorique, parfois, ça a une importance capitale, parfois, bon, non. Donc j'assume, c'est pas grave.
Et justement, toujours par rapport à cette question de la position critique du chercheur, votre corpus n'est pas écrit dans votre langue maternelle. Quel serait l'intérêt justement d'avoir un regard critique qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre pays ?
Il me semble qu'il y a il y a deux questions en fait dans la question. Parce que la question de la langue n'est pas tout à fait la même question que celle du point de vue extérieur. Contrairement à d'autres comparatistes, à beaucoup, je sais pas si ma collègue Hélène sera d'accord là-dessus, pour moi la question de la langue n'est pas un truc prioritaire. C'est-à-dire que je ne suis pas un très bon linguiste, je suis pas un super bon linguiste, je me considère pas comme un spécialiste du style ni en anglais ni en espagnol. Voilà, je le lis couramment et sans problème, et comme le français, mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Alors que les questions de traduction et tout ça sont passionnantes, hein, j'ai pas de doute là-dessus, et c'était très intéressant pour le travail de thèse de voir aussi les erreurs de traduction, des choses comme ça, et comment ça oriente. En revanche, l'idée d'un point de vue extérieur, ça m'intéresse beaucoup, et je pense que volontairement aussi j'ai choisi des auteurs encore plus où il n'y a pas d'auteur français, pour moi être dans une position un peu d'outsider. Et de me dire, là je sais que de toute façon en France il n'y a pas de spécialiste là-dessus, et je suis dans une perspective un peu à distance. Je n'appartiens à aucun endroit là-dedans. Et ça me plaît parce que c'est ce que je crois reconnaître dans les auteurs aussi, qu'ils cherchent à se montrer comme n'appartenant à aucun endroit et cherchant cet entre-deux. Et évidemment, bon là, pardon pour la psychanalyse de bazar, mais quand on écrit une thèse, on parle de soi, évidemment. Et les auteurs qu'on choisit, c'est parce qu'on parle de soi et parce qu'ils parlent de nous en un sens. Donc évidemment que ça, cet effet de distance, c'est parce que ça m'intéressait d'être dans cette même position. Ouais.
Et peut-être pour formuler une dernière question, vous venez de rappeler le refus des 4 auteurs que vous étudiez de s'ancrer dans un espace local pour leur littérature, étant des auteurs entièrement intégrés à ce qu'on pourrait appeler la mondialisation littéraire. Cependant, comment on pourrait ici comprendre que, en même temps, notamment pour les 3 auteurs argentins que vous analysez, Borges, Cortázar et Bioy Casares, ils participent par ce passage par l'étranger à la construction d'une littérature nationale.
Oui, alors oui, c'est une très bonne question. Et alors la réponse pourrait être un peu longue, mais je vais pas faire un cours parce que c'est pas du tout l'objet. Mais là, je pense, chez Cortazar, je crois pas, mais c'est un effet involontaire pour lui. Mais chez Borges et Bioy Casares, là, c'est une stratégie très pensée, qui est de dire il est hors de question qu'on nous identifie comme des auteurs argentins. Parce que être identifié comme un auteur argentin, ça veut dire être dans un ghetto, surtout à l'époque. Donc, ce qu'on va faire, c'est être dans une position où on considère que la littérature, c'est un truc universel, où il n'y a pas de hiérarchie, et on va réécrire, c'est pour ça qu'ils font des anthologies de romans policiers, de romans fantastiques, on va réécrire l'histoire littéraire à notre sauce, et tout cela rejaillira ensuite sur l'espace argentin, parce que de fait, on est argentin. Mais il ne s'agit pas de partir de ce qui s'est fait pendant longtemps en littérature argentine, qui est de faire de la couleur locale. Et il y a un texte très important de Borges des années 30 qui s'appelle « L'écrivain argentin et la tradition », où, comme toujours, avec ironie, il se moque du fait que parce que un écrivain vient, je sais pas, du Moyen-Orient, on s'attend à ce qu'il y ait des chameaux dans les textes, juste pour faire de la couleur locale et de montrer qu'il vient de là-bas. Donc il dit « Non, désolé, je ne voulais pas vous faire des descriptions de gaucho dans la campagne ou de tango. » quoi. Moi, je suis argentin, mais j'ai tout aussi le droit qu'un auteur français de parler d'autre chose que mon pays. Et donc il va refuser absolument de parler de manière directe de son pays. Évidemment, il en parle de manière oblique. Et finalement, Cortazar est dans le même état d'esprit au départ, parce que quand il s'exile en France, c'est l'idée, je viens d'un petit pays où il n'y a rien, il n'y a pas de tradition littéraire intéressante, je veux être un écrivain français. Je veux vivre la vie de bohème, je veux être un écrivain français. Et il écrit dans les années 30-40 des essais qui ne sont pas inoubliables sur la poésie française. Et c'est en s'exilant qui commence à parler de l'Argentine, et aussi à cause de la révolution cubaine, bon, où il dit « je redécouvre mon pays parce que je n'y suis plus ». Et donc j'ai une position qui me permet de ne pas être dans cette position forcée d'ambassadeur. Mais de fait, ça leur supposait, ça supposait pour eux un certain courage parce qu'ils étaient très attaqués. Alors surtout Cortazar était très très attaqué, parce qu'il y avait plein de gens en Argentine qui l'accusaient d'être un faux Argentin. Quelqu'un qui ne vivait pas en Argentine, qui se permettait de donner des leçons, ou même juste de parler de l'Argentine alors qu'il n'y était pas. Alors c'était des attaques qui venaient surtout, j'allais dire surtout de la droite argentine, la droite nationale c'est vrai, mais qui venaient aussi d'une partie de la gauche qui l'accusait d'être occidentalisé et donc pro-américain en un sens. Et ces auteurs-là sont toujours soumis à cette attaque. Et en un sens, c'est pareil pour Stevenson, quand il part aux États-Unis, ou surtout quand il part au Samoa à la fin de sa vie, ses amis à Londres ne comprennent pas. Et ne cessent. Et on a retrouvé des lettres où ils disent, des lettres qui s'envoient entre eux en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas avec ces sauvages ? Pourquoi il veut faire une histoire du Samoa ? Ça n'a aucun intérêt. » Qu'il revienne à Londres et qu'il fasse des trucs bien, quoi. Et c'était pareil quand il était aux États-Unis, mais alors vraiment, au Samoa, ça a été... l'apogée de ce truc-là, au point qu'il envoyait ses manuscrits à ses amis en Angleterre pour qu'ils les publient, et ses amis massacraient les manuscrits. Ils coupaient tout ce qui était un peu anticolonial, en disant « non, mais ça va jamais passer », et ils faisaient un texte qui n'était pas ce qu'avait écrit Stevenson, qui était, je crois, particulièrement casse-pied d'ailleurs avec les autorités coloniales, Samoa, même le protectorat allemand avait écrit à l'ambassade de Grande-Bretagne en disant « Écoutez, là, on a un de vos ressortissants, faut qu'il se taise, faut qu'il arrête de nous envoyer des lettres pour dire que les Samoans sont maltraités et tout ça. » Et voilà, donc c'est un dialogue inversé, disons. Un auteur qui vient du centre et qui décide de ne plus l'être, mais parce qu'il vient d'Écosse, qui est dans une position un peu particulière, et des auteurs, au contraire, qui viennent d'Argentine et qui disent « Ouais, ok, on est argentin, mais on veut parler de la littérature comme si on était français ou anglais, c'est-à-dire sans qu'on soit toujours assigné à notre pays. » Et voilà, ça, dans le rapprochement, c'est aussi ça qui me passionnait. C'était l'idée qu'il ne voulait pas être assigné à quoi que ce soit, ni à un genre littéraire, ni à une nationalité.
Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans l'auditoire ? Très bien.
Non, alors en fait, j'ai une question un peu pour briser la glace et c'est un peu scolaire. Mais bon, tu dis qu'il n'y a pas de théorie d'influence qui soit vraiment définitive. Mais en même temps, tu utilises le cadre théorique de l'intertextualité. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le cadre? Et qu'est-ce qui manque?
Ouais. Merci pour ta question, j'ai pas... Oui, sans doute que... C'est... Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas de théorie de l'influence, c'est peut-être ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y en a pas qui me satisfassent. Ce qui est différent, je le conçois. Oui, la théorie de l'intertextualité, sans doute, c'est... Mais je sais pas, enfin, t'es peut-être pas d'accord, mais c'est un peu vieillot, non? Oui. C'est... Mais tu vois, prenons un cas très pratique. Un étudiant vient nous voir... Voilà, Hélène et ma collègue, vous l'aurez compris, pour nous demander quel texte il faut lire un peu moderne sur la question de l'influence, eh ben, je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose à lui proposer.
Non, mais alors, en vrai, je suis d'accord parce que je voulais, comme après tu parlais d'intertextualité, je me disais qu'en réalité, on s'est contenté de Genette définitivement sur cette question, alors que sans doute, maintenant qu'il est mort, on pourrait remettre à jour. Et en fait, la question s'est posée dans notre contexte. C'est pour ça aussi que je rebondis là-dessus, un peu en piégeant avec la question intertexte. Parce qu'en fait, il n'y a pas de façon de mesurer l'influence, surtout. Et ce que tu disais sur les effets de disproportion, enfin, les volontés de réhabilitation qui pourraient toujours être un peu des surinterprétations, c'est parce que juste, on n'a pas d'unité de mesure. Et donc, moi, ça m'inspire un livre sur ce sujet à publier.
Eh ben, très bien.
Chez Vénès Éditions.
Lançons-nous. Oui, mais ça rejoint des choses dont on a déjà parlé, pardon. Mais c'est tout à fait juste, il n'y a pas de mesure de l'influence parce qu'on mesure l'influence à partir de ce qu'on voit dans les textes. Et on dit un tel cite un tel, bon bah voilà, c'est de l'influence. Mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas parce qu'il l'a cité, moi aussi je trouve des citations que je trouve belles, si ça se trouve j'ai même pas lu le livre. Donc l'influence ça peut être aussi un truc plus, enfin, moins palpable qui est celle du réseau. Ah, oui, quelqu'un, tel écrivain a croisé tel autre écrivain, ils ont pris un verre ensemble. Comment on mesure ça? Comment on le traduit en termes d'histoire littéraire? Et là, alors on a bien sûr les correspondances. Mais bon, tous ces gens s'écrivaient beaucoup de lettres, mais ils se parlaient aussi de temps en temps. Et ça, on n'a pas toujours les traces. Donc c'est pour ça que l'influence... Alors, quand en plus l'influence est une influence diachronique, avec, bon là, il y a à peu près 60 ans d'écart entre mes deux pôles de corpus, ça devient encore plus compliqué, parce que certes, ils n'ont pas pu se rencontrer, mais du coup, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure combien de fois il a lu tel auteur. Moi, tout ce que je peux dire là, c'est que je sais que, par exemple, Borges connaissait très bien Stevenson, puisqu'on a des entretiens où Borges est déjà aveugle, hein, à la fin de sa vie, il était aveugle, et où telle personne lui dit « Mais alors Stevenson, vous connaissez bien ?» Et Borges va dans sa bibliothèque, prend un livre, alors déjà, bon, je ne sais pas comment il fait, il prend le livre, c'est les œuvres complètes de Stevenson, et il récite des passages entiers. Il récite une nouvelle en entier, il dit « Ah oui, alors là, telle phrase quand même, dans tel texte, en plus qui est quand même pas le plus connu de Stevenson, quelle merveille, et tout ça. » Donc bon, c'est Borges, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Donc là, on mesure un truc qui est, il connaît l'œuvre, et il l'aime, et il la cite. On ne fait pas une théorie avec ça, il me semble. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres modèles. Et, voilà. Voilà, spoiler pour... Et teaser pour un livre à venir.
Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Raphaël Luis, pour ce moment d'échange.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour vos questions. C'était très agréable de se parler de ce livre qui pourtant est un peu loin dans ma mémoire. Merci beaucoup. Merci.